Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique consacrée au Japon et à la place de l'archipel nippon dans son environnement régional. En pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, l'entrée en vigueur le 1er février de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon n'est pas passée inaperçue et la perspective de la fin du mois de février, échéance fixée par la Maison-Blanche pour un réexamen de la relation entre Washington et Pékin, ainsi que l'idée d'une prochaine rencontre entre Donald Trump et le leader nord-coréen, autant de sujets qui constituent aussi des défis pour le Japon. Nos invités pour en parler, Valérie Niquet, maître de recherche, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Grosser, historien, spécialiste de l'histoire des relations internationales, professeur à Sciences Po, auteur de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et Nicolas Rego, conseiller pour l'Indo-Pacifique de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Bonjour.
Bonjour.
Carlos Ghosn, incarcéré dans une prison tokyoïte depuis le 19 novembre, sans avoir accès à un téléphone ou à un ordinateur. On lui refuse la libération sous caution. Ça n'arriverait pas dans aucune autre démocratie du monde. Puni avant d'être déclaré coupable. On a décidément un peu de mal à bien connaître le Japon d'aujourd'hui. Son image de soft power ne correspond pas toujours parfaitement à la réalité, ou en tout cas, l'affaire Ghosn l'a d'une certaine manière un peu ternie. On peut rappeler aussi le retrait de la commission baleinière internationale fin décembre 2018 et puis la mise en examen par la justice française du président du comité olympique japonais soupçonné de corruption active dans la désignation de Tokyo pour accueillir les Jeux olympiques décembre 2020. Il y a aussi cette question, je me tourne vers vous Valérie Niquet, vous connaissez bien le Japon pour y avoir vécu. Il y a cette championne de tennis Naomi Osaka qui a gagné l'Open d'Australie le 26 janvier dernier. Elle n'est pas complètement japonaise, de mère japonaise mais de père haïtien. Bref, on découvre à travers ces différents événements et ces différents points de l'actualité récente un Japon qu'on a peut-être du mal à comprendre.
Alors, en ce qui concerne la championne de tennis, ce qui est certain, c'est que bien qu'elle ne soit pas purement japonaise, elle suscite une très très grande admiration au Japon et beaucoup la comparent au champion japonais, un homme dont j'ai oublié le nom, qui était extrêmement séduisant, mais dont on dit aujourd'hui qu'il n'a jamais été capable d'accomplir les exploits que elle accomplit, peut-être justement parce qu'elle était aussi poussée par un père qui venait d'une autre culture et qui avait une autre vision du rôle des femmes. Sur l'affaire Ghosn, juste pour revenir, vous avez mentionné l'absence de téléphone en prison, ça n'est pas uniquement au Japon, je crois, que les prisonniers n'ont pas accès obligatoirement à un téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on discute avec des Japonais, y compris dans des cercles proches du monde politique aussi, eh bien, ils sont eux-mêmes extrêmement choqués par la manière dont, finalement, le ministère de la Justice, d'une manière assez obtuse, a géré cette affaire sans tenir compte à la fois de l'image internationale du Japon. Donc, ce que ça met en évidence, c'est plutôt ce contre quoi, d'ailleurs, le Premier ministre Abe essaye de lutter depuis qu'il est retourné au pouvoir, comme son prédécesseur, d'ailleurs, Koizumi, c'est lutter contre le poids de la bureaucratie qui impose ses règles, quelles que soient les priorités politiques ou stratégiques du moment. Un peu comme les critiques qu'on a menées contre Bercy ici, en disant que pendant très longtemps, finalement, les fonctionnaires de Bercy imposaient aux ministres et aux politiques leurs décisions, en disant que tout était impossible. Eh bien, au Japon, ça existe encore, puissance 10 dans certains ministères, de fonctionnaires qui appliquent les règles pour des raisons qui leur sont propres, y compris leur propre pouvoir, en attendant tout simplement que les politiques passe et c'est très souvent extrêmement dommageable en termes de prise de décision, notamment ce qui concerne la politique étrangère du Japon.
Politique étrangère que l'on aura l'occasion de développer. Pierre Grosser, sur l'image du Japon.
Alors, effectivement, là, vous avez fait une liste plutôt négative sur l'image du Japon, alors que dans les années 2000, notamment avec le Cool Japan, on avait essayé de lancer cette vision extrêmement positive du Japon. Il faut se rappeler, vous avez évoqué soft power, que le terme a été inventé pour parler, en fait, des États-Unis face au Japon. Puisque c'est Joseph Nye, donc un Américain, un politiste américain, qui ensuite, d'ailleurs, s'est occupé du dossier japonais au département d'État, qui avait l'impression, la compétition avec le Japon à la fin des années 1980, que si le Japon était en train train de rattraper économiquement les États-Unis, en tout cas c'était la perception que l'on en avait, et bien qu'il lui manquait quelque chose, c'était le soft power. Alors il y avait manga, sushi, karaoké, Lokiti, enfin bon, un certain nombre de choses, disons, de culture populaire. Et donc depuis, il y a cette volonté de la part du Japon de se positionner aussi sur le domaine du soft power. Après, effectivement, il y a un certain nombre d'images qui ne sont pas toujours très très positives, et il faut faire quand même très attention sur cette affaire de Carlos Ghosn aussi, de pas trop critiquer le Japon. Pourquoi ? Parce que ça leur rappelle des mauvais souvenirs. Il faut bien voir que au départ, quand les Occidentaux sont arrivés, ils ont imposé des traités inégaux et fait juger les Occidentaux qui faisaient des bêtises au Japon par des tribunaux spéciaux, mixtes, ou des tribunaux spécifiquement occidentaux. Et donc, le Japon a fait tout un tas de réformes, notamment avec l'aide de pénalistes et de civilistes français, allemands et autres, pour se mettre à niveau et dire, ben voilà, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance à la justice japonaise. Donc, de dire aujourd'hui, de la même façon, la justice japonaise n'est pas au niveau, elle n'est pas civilisée, ça pose quand même un certain nombre de problèmes en termes de rapport avec le Japon.
Nicolas Rego.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça montre aussi que c'est une société très ouverte, où les médias sont très critiques. Ça donne une image aussi qu'il y a des contre-pouvoirs. Et en tout cas, au niveau régional, l'image du Japon a considérablement changé au cours des 20 dernières années. Et ce n'est pas un hasard si le Premier ministre Abe a été en mesure, je dirais, de prendre un peu le leadership sur les questions internationales.
Alors, l'actualité, c'est aussi l'entrée en vigueur le 1er février de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon, donnant naissance à un marché de 635 millions de consommateurs, pesant 30% du produit intérieur brut mondial. Un accord qui, curieusement, a fait moins de bruit en Europe par rapport à celui conclu avec le Canada, le fameux CETA, ou celui avorté avec les États-Unis, le TTIP, alors que c'est l'un des plus importants. Il s'inscrit, cet accord, dans la guerre commerciale américano-japonaise. Elle est une pierre dans le jardin des États-Unis, qui n'ont toujours pas réussi à conclure leur propre accord avec le Japon et qui se sont retirés du partenariat donc transpacifique. Le fait d'arrimer l'archipel nippon au vieux continent, est-ce qu'il est à voir comme une victoire pour les Européens ? Est-ce pour les Japonais une solution au fait que le pays pâtit de la guerre commerciale sino-américaine ? On peut juste rappeler que l'archipel a enregistré un déficit commercial en 2018. Quelle lecture faites-vous les uns les autres de cet accord entre l'Union européenne et le Japon ? Valérie Niquet.
En fait, d'abord, l'accord est en négociation depuis très longtemps, bien avant même l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui est ancien et qui aboutit enfin. Et c'est certain que ça permet à la fois à l'Union européenne et au Japon de s'affirmer face à une puissance américaine qui a une stratégie de guerre commerciale d'abord contre la Chine, mais qui également commet l'erreur, à mon avis, de s'attaquer à tout le monde en même temps, y compris à ceux qui sont ses alliés les plus proches, notamment en Asie et bien sûr en Europe. C'est important, évidemment, d'un point de vue commercial pour les deux parties. Il ne faut pas quand même oublier que pour le Japon, les premiers partenaires commerciaux demeurent... Alors évidemment, on prend l'Europe dans son ensemble, mais les États-Unis et surtout la Chine en Asie restent extrêmement importants. Et ça explique d'ailleurs les ambiguïtés parfois de la stratégie japonaise à l'égard de la Chine, qui hésite entre tensions réelles, on en reparlera sans doute, mais également la Chine est un partenaire essentiel pour le milieu économique japonais. Donc l'Europe compte énormément, et surtout ça était aussi un discours que les Japonais aiment et qu'on peut mettre d'ailleurs en valeur du côté européen comme du côté japonais. C'est le partage d'une même vision du monde, d'une sorte d'ordre libéral au sens ouvert du monde, et s'appuyant sur des valeurs communes, le fait qu'en Asie, le Japon reconnaisse notamment le principe d'universalité de certaines valeurs, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, d'autres acteurs régionaux comme la Chine, avec qui c'est beaucoup plus difficile, on le voit, de mettre en place une coopération qui repose sur des règles acceptées par tous.
Pierre Grosseur.
Tout à fait d'accord avec toutes les analyses qui viennent d'être faites. Il faut bien rappeler que l'Europe n'est pas un partenaire commercial absolument majeur pour le Japon. Le Japon n'est plus non plus un partenaire absolument essentiel pour l'Union européenne. Alors ça pèse plus quand même que le Canada. Mais de même façon que le Canada, ses relations, c'est essentiellement avec les États-Unis, bah pour le Japon, c'est essentiellement avec la Chine. Je crois que ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est quand même un accord assez original, puisque on négocie pas vraiment les tarifs, puisqu'il y a pratiquement plus de tarifs. Et c'est donc sur tout ce qui est non tarifaire, la pénétration du marché. Et ça pose un certain nombre de problèmes en termes de base politique aussi au Japon, puisqu'on touche notamment à la question agricole, rurale, d'ailleurs en France aussi. Hein. Et donc, ça pose encore quelques problèmes au Japon. Mais tout compte fait, c'est essentiellement une façon aussi de résister dans les négociations avec les Américains. Les Américains ont dénoncé leur accord avec la Corée du Sud, comme ils l'ont fait avec l'ALENA, et avec le Japon. Trump dit à peu près n'importe quoi sur les déficits. Hein. Il parle de 100 milliards de déficits, alors qu'ils sont en gros de 50 à 60 milliards. Il faut se rappeler que le gros déficit avec le Japon, c'est ça qui a lancé la carrière de Trump à la fin des années 80. Son obsession n'était pas chinoise, c'était le Japon.
Nicolas Rego.
Oui, je pense que c'est très important parce que ça vient surtout après l'échec du fait de la décision du président Trump du TPP, du Trans-Pacific Partnership, qui naturellement aujourd'hui va vivre une nouvelle vie. Il est transformé, mais à 11 seulement. Donc c'est aussi une victoire du multilatéralisme. Et ça change complètement de l'approche choisie par la Maison-Blanche aujourd'hui. Donc c'est très important que l'UE et le Japon, qui se font fort de défendre des valeurs universelles, des normes, une approche multilatérale, c'est très important de montrer cet exemple-là. Enfin, c'est vrai, le poids relatif de l'UE et du Japon dans les échanges mondiaux et dans la production de la richesse mondiale a diminué. Aujourd'hui, c'est à peu près 22% pour l'UE et 6% pour le Japon. Voilà, et ça ne cesse de diminuer au profit de la Chine, mais quand même, ça compte. C'est quand même des acteurs encore lourds. Voilà.
Valérie Nicolas, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Juste un dernier point rapide pour indiquer que le Japon, en termes d'investissement créateur d'emplois, notamment en France, reste le premier investisseur asiatique. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup l'image d'une Chine qui allait investir et créer des emplois et sauver l'économie mondiale et l'économie européenne. En réalité, en termes d'investissement créateur d'emplois, le Japon est au premier rang, notamment en France.
Alors, on peut souligner aussi, toujours dans cet accord, Pierre Grosser évoquait les questions agricoles, importantes bien sûr, et aussi l'ouverture de marchés publics de près de 48 villes japonaises, ça c'est tout de même une nouveauté. Ce que je voudrais, c'est qu'on essaye de comprendre quelle est aujourd'hui la stratégie du Japon. Est-ce que, finalement, cet accord entre l'Union européenne et le Japon, est-ce qu'il faut y voir une sorte de machine de guerre contre la Chine ? Valérie Niquet évoquait l'ambiguïté de la relation entre la Chine et le Japon. J'aimerais qu'on fasse le point sur cette question et on parlera ensuite bien sûr de ce qui nous intéresse également, c'est l'axe Indo-Pacifique mais qui vient un peu élargir la question. Alors sur la relation Chine-Japon, Valérie Niquet.
J'ai commis il y a quelques années un livre sur les relations entre la Chine et le Japon et c'est vrai, en fait pas tant que ça, elle reste extrêmement ambiguë. Alors on peut remonter à l'histoire, les Chinois le font beaucoup en accusant le Japon de ne pas accepter et de reconnaître ses torts historiques, et une histoire qui remonte, on parlait récemment du traité de Versailles et de ses conséquences en Asie, où effectivement déjà le Japon se comportait comme les autres grandes puissances impériales à l'égard de la Chine, et c'est donc des éléments de tension qui existent encore et qui sont en permanence rappelés par l'acteur chinois pour des raisons qui sont essentiellement liées à la politique intérieure de la Chine, même si du côté japonais on ne peut pas nier non plus des tentations nationalistes qui existent ou populistes qui existent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, ces relations sont extrêmement ambiguës parce que à la fois le Japon fait face avec la Chine à non pas peut-être une menace immédiate, mais en tout cas une très grande puissance qui manifeste régulièrement sa volonté de s'étendre dans la région et qui a des revendications territoriales très précises à l'égard du territoire japonais. Il y a des incursions chinoises en permanence dans les zones contrôlées par Tokyo, le développement de la marine chinoise est très important et donc le Japon doit tenir compte de ces éléments-là, d'autant plus que les pressions chinoises, ça n'est évidemment pas un conflit ou une guerre ouverte, c'est des incursions de bateaux de pêche, de garde-côtes, donc tout ce qu'on appelle au Japon une zone grise contre laquelle il est très difficile de répondre sans être immédiatement accusé d'être l'agresseur et surtout qui met en danger ce qui est le cœur de la sécurité du Japon, c'est-à-dire l'alliance avec les États-Unis. Tout le monde, évidemment, sait bien que peut-être il y a de fortes chances pour que, même si les Chinois décidaient de prendre pied sur les fameux îlots Senkaku qu'ils revendiquent, eh bien, il n'est pas du tout certain que Washington risque un conflit ouvert avec Pékin pour défendre les Senkaku. Donc, c'est tout l'équilibre stratégique, tout ce qui faisait imposait la sécurité du Japon et ses certitudes d'après-guerre qui sont aujourd'hui remises en cause et qui imposent des réponses, des nouvelles alliances, se tourner vers d'autres, et la Chine est au cœur de ce problème stratégique. Dans le même temps, la Chine, on l'a dit, c'est le premier partenaire commercial du Japon. Beaucoup d'entreprises japonaises ont besoin de ces échanges avec la Chine, même si récemment, les investissements ont beaucoup diminué, notamment depuis la fameuse guerre des métaux rares que Pékin avait lancée il y a quelques années pour punir Tokyo, à propos de questions de mer de Chine orientale encore. Donc il y a une méfiance beaucoup plus grande qu'auparavant à l'égard de la Chine, mais économiquement, c'est vrai que la Chine est un partenaire essentiel et que le Japon doit jouer entre les deux. J'ajoute que cette année, à cause de Trump notamment, les Chinois, qui sont extrêmement pragmatiques, sont beaucoup plus ouverts à un rapprochement avec Tokyo, comme d'ailleurs avec l'Union européenne, pour tenter d'équilibrer la puissance américaine, mais que ça ne signifie absolument pas qu'à long terme, on soit arrivé à une véritable amélioration fondamentale des relations entre Tokyo et Pékin.
Alors, je vais vous laisser l'un et l'autre, Pierre Grosser et Nicolas Rego, réagir à ce que vient de dire Valérie Niquet. Et au-delà, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si le plus grand dilemme pour le Japon aujourd'hui n'est pas cette question de reconnaissance de la suprématie chinoise dans la région, Pierre Grosser?
Alors effectivement, sur le long terme, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que historiquement, il y a cette vision qui fait beaucoup plaisir aux Chinois en ce moment, un système tributaire avec l'empereur de Chine en haut et les vassaux tout autour, et le Japon a toujours traîné les pieds pour être le vassal. Et ce qui s'est passé, ce qui a été un peu un traumatisme, et même beaucoup un traumatisme pour les Chinois, c'est que pendant plusieurs dizaines d'années, en gros un demi-siècle, il y a eu la tentation de la part du Japon d'inverser complètement cette hiérarchie, c'est-à-dire de se mettre au sommet, de mettre l'empereur du Japon au sommet. Et dans les années 1940-41, il y avait un certain nombre de réunions où c'était effectivement les vassaux asiatiques du Japon qui se réunissaient face à l'Occident. Et donc cette inversion a été très très mal vécue, et donc évidemment ce qui reste dans les têtes, c'est la volonté de revenir à la situation antérieure. Et pour le Japon, il est hors de question évidemment de se faire vassaliser par la Chine, mais on se retrouve devant une situation que les Japonais n'ont pas connue depuis très 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 longtemps, c'est-à-dire d'une Chine puissante. Pendant tout le XXe siècle, l'essentiel des problèmes pour le Japon, c'était plutôt la Russie puis l'Union soviétique. C'était ça le grand problème de sécurité du Japon, et désormais on a une Chine puissante qui effectivement relativement revendicatrice. Et donc la grande question, c'est de savoir est-ce qu'on va faire une grande alliance pour équilibrer la Chine, mais ça c'est relativement peu probable. Et donc comment maintenir des bonnes relations avec la Chine dont on dépend largement économiquement. Le Japon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, a quand même un vrai problème de démographie, ce qui quand même nuit à la puissance. Et donc comment essayer de ménager la chèvre et le chou. Et il faut dire que en ce moment les Américains n'aident pas beaucoup les Japonais à ménager la chèvre et le chou.
On évoquera bien sûr la relation entre le Japon et les États-Unis. Nicolas Rego.
Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Valérie Niquet. C'est important, le Japon, mais nous aussi sommes confrontés à un changement d'ordre du monde. Des Américains moins engagés et moins volontaires pour assurer la sécurité au niveau international, donc se retirant d'un certain nombre de crises, voire de conflits. Une Chine ascendante et mettant en place les outils de l'expansion de son influence et de sa puissance au niveau mondial, notamment la Belt and Road Initiative. Des menaces immédiates extrêmement fortes et qui se sont accrues récemment avec une Corée du Nord qui a développé des capacités nucléaires et balistiques extrêmement fortes. Donc un environnement qui est devenu extrêmement stressant pour le Japon. Donc ces certitudes ont changé, mais il faut faire avec. La Chine est là pour l'éternité à la porte, et on ne peut pas, et même si certains au Japon peuvent être tentés par mener une sorte de croisade, ou en tout cas de lutter contre l'ascendance chinoise, en fait ce n'est pas réaliste. Donc c'est plutôt au niveau global que le Japon cherche, avec ses partenaires européens, avec l'Australie, avec l'Inde, avec toutes des formes de démocratie aussi, de puissance bénévolante, à montrer que on ne peut pas changer toutes les règles, ou qu'en tout cas ce n'est pas l'intérêt du monde de changer toutes ces règles sur le plan économique, sur le plan des normes, sur le plan du droit international, et qu'il faudra, je dirais, faire tous nos efforts pour que la Chine, la Russie, d'autres encore, je dirais, gèrent leur montée en puissance de manière respectueuse des intérêts communs, puisque le monde est aujourd'hui tout petit, et ce qui se passe en Asie peut avoir des effets en Europe et inversement.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Valérie Niquet, Pierre Grosser et Nicolas Rego après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le Japon. Nous retrouvons nos invités Valérie Niquet, maître de recherche responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, Pierre Grosser, historien spécialiste de l'histoire des relations internationales, professeur à Sciences Po, auteur de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle aux éditions Odile Jacob, et Nicolas Rego, conseiller pour l'Indo-Pacifique de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Nous avons terminé la première partie de l'émission en évoquant la relation que Valérie Niquet décrivait comme une relation assez ambiguë entre la Chine et le Japon. Nicolas Rego, vous rappeliez l'environnement stressant qui était aujourd'hui celui du Japon dans son environnement régional, tout en soulignant que la Chine était là pour l'éternité. Valérie Niquet, vous souhaitiez rajouter quelque chose ?
Oui, la Chine est là pour l'éternité. En tout cas, l'idée de Chine et la Chine telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais ce qui inquiète le Japon, ce n'est pas tellement la montée en puissance de la Chine. Ça fait partie des jeux de puissance qui existent d'une manière globale et qui peuvent tout à fait s'intégrer à un système international multilatéral harmonisé. Ce qui inquiète le Japon, c'est ce qui inquiétait aussi l'Europe à l'époque de la guerre froide, c'est que c'est une Chine spécifique, c'est un régime particulier qui a des ambitions, des objectifs, notamment de survie du système politique qui passe par une stratégie extérieure qui peut être totalement agressive ou au contraire apaisée, mais que en tout cas Tokyo ne maîtrise pas, ni d'ailleurs les États-Unis, ni nous-mêmes. Donc c'est ça qui fait le problème de la Chine aujourd'hui. Et cette question du régime chinois, elle n'est pas éternelle. Les choses vont évoluer un jour et donc il faut aussi s'adapter aux évolutions possibles. C'est comme Trump d'ailleurs. Trump est là. Les États-Unis sont en retrait. Je pense que s'il y avait une vraie tension d'urgence en Asie, j'imagine difficilement que même avec un président comme Donald Trump, les États-Unis ne s'engagent pas. Et la question se pose sur les zones grises, comme je le disais, les menaces qui sont mal définies. Mais en cas de vraie crise en Asie, avec Taïwan par exemple, on peut imaginer des choses de ce type, eh bien je crois que là, les États-Unis ne seraient plus en retrait. Et d'ailleurs, ils ont régulièrement réaffirmé, en dépit de la stratégie de Donald Trump, de l'America First, leur engagement en mer de Chine du Sud, et on voit que ça marche, puisque en 2018 par exemple, les Chinois n'ont pas tenté de s'emparer de nouveaux îlots en mer de Chine, même s'ils ont consolidé leurs acquis. Donc c'est un jeu effectivement complexe, mais la notion de puissance chinoise doit être relativisée et mise en relation avec la nature du système politique.
Alors l'engagement des États-Unis, j'aimerais qu'on passe un petit moment là-dessus. Il est évident que depuis l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, Pierre Grosser, les choses sont moins certaines qu'elles n'avaient pu l'être précédemment. D'où cette attitude du Japon qui est de multiplier les alliances. Alors, on a évoqué rapidement, c'est l'occasion peut-être maintenant de l'évoquer plus à fond, l'axe Indo-Pacifique. C'est un slogan qui a été présenté en 2016 par Shinzo Abe. On sent une certaine volonté d'accélération. De quoi est-il question très exactement, et que signifie cette alliance comme chamboulement géopolitique dans la région, Pierre Grosser ?
Alors, je ne crois pas qu'on soit dans des chamboulements géopolitiques, comme l'a rappelé Valérie Niquet. Il ne faut pas exagérer non plus la rupture Trump. On imaginait, parce que dans les soutiens de Trump, il y avait des vrais isolationnistes, que Trump pourrait dire qu'il allait rapatrier les troupes et demander à la Corée du Sud et au Japon finalement d'avoir l'arme nucléaire et de se débrouiller tout seul face aux menaces. On est très loin de cela. On l'a vu avec le général Mattis qui a multiplié les voyages dans la région. Alors il est plus là, mais enfin je pense que les voyages vont continuer d'exister. Quand on fait des sondages d'opinion aux États-Unis, la plupart du temps, il y a la volonté de laisser des troupes et en tout cas de protéger le Japon et la Corée du Sud. Donc il faut pas exagérer le bouleversement. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour Shinzo Abe, qui s'est précipité à Washington dès l'élection de Trump. Les contacts se sont multipliés, il est plusieurs fois aux États-Unis pour parler à Trump. Donc, si vous voulez, la carte américaine existe toujours, les liens existent toujours, il y a tout un tas de débats sur les bases américaines, il y a des exercices en commun, enfin bon, la relation existe encore. De l'autre côté, l'idée de faire revivre, parce que c'est quand même très largement faire revivre cette idée d'Indo-Pacifique ou de Quad, c'est-à-dire d'avoir des relations avec l'Australie, d'avoir des bonnes relations avec l'Inde, avoir des bonnes relations, bien entendu, avec les États-Unis, voire l'Europe, eh bien, toute cette vision des choses avait déjà été quelque peu développée dans les années 2000. On avait parlé de Global NATO, hein, c'est-à-dire d'élargir, pas concrètement, mais disons d'associer très largement le Japon à l'OTAN. L'idée que le Japon s'associe aux Five Eyes, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau non plus, hein, c'est-à-dire espèce d'alliance de renseignement entre pays anglo-saxons. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont communes. À côté de ça, il y a des impulsions qui viennent aussi de l'extérieur. Par exemple, les Britanniques, dans le cadre du Brexit, sont absolument fascinés par le Japon aujourd'hui, parlent de nouvelles alliances anglo-japonaises, partent dans des délires qui me paraissent tout à fait excessifs, parce qu'on voit pas tellement ce que les capacités britanniques pourraient amener réellement au Japon, mais il faut se souvenir que le Japon a eu sa première grande alliance avec une puissance occidentale en 1902 avec les Britanniques. Donc je pense qu'il faut pas exagérer les changements stratégiques dans la région pour le moment. Tout le monde reste relativement prudent. Mais par exemple, le Japon essaie d'avoir des relations cordiales et assez bonnes avec la Russie. Il y a eu beaucoup de rencontres avec la Russie. Là aussi, pour éviter d'avoir un front entre la Chine et la Russie. Donc voilà, c'est un jeu qui reste relativement fluide.
Sur l'Indo-Pacifique, Nicolas Rogaud.
Oui, je crois néanmoins qu'il y a une beaucoup plus grande fluidité aujourd'hui qu'hier. Je pense que c'est cela qui inquiète beaucoup d'acteurs dans la région. Les certitudes que Pierre Grosser a décrites sont aujourd'hui mises en question. Ça ne veut pas dire que les choses vont changer du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a un effritement des certitudes. Et la crédibilité des garanties de sécurité, des garanties que les États-Unis offraient sans contestation, aujourd'hui font l'objet de beaucoup de questions. Ça ne veut pas dire que ceux qui posent ces questions ont raison, mais il y a voilà beaucoup moins de certitudes. Alors l'Indo-Pacifique, d'abord c'est un concept que plusieurs pays peuvent se disputer l'origine, la création, mais c'est quand même le Abe qui a été le premier à lui donner, je dirais, de la consistance. Donc une stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouverte qui est sa grande politique aujourd'hui, bah, ça consiste surtout à faire le constat que les normes internationales sont largement issues de la suite de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien sont aujourd'hui contestées, pas uniquement par la Chine, mais par d'autres, et que si nous ne faisons pas attention, c'est un autre monde qui se mettra en place avec les relations internationales qui seront, je dirais, gérées, organisées selon le principe de « je suis le plus fort, donc c'est moi qui organise la réalité internationale ». C'est pas comme ça qu'on a créé le monde de l'après-guerre. On l'a créé autour de normes et où les États étaient respectés dans leur indépendance, dans leur autonomie. Et je pense que c'est aussi un point clé de la stratégie aujourd'hui mise en place par les États-Unis, qui reprend largement les idées japonaises, c'est de faire qu'il y ait des réponses collectives pour permettre aux États de ne pas tomber dans quelque zone d'influence que ce soit. Donc, ce qu'on appelle la construction des capacités, le capacity building, hein, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, c'est l'idée que chacun a droit à son indépendance et que le monde ne sera pas mieux portant si se recréent des zones d'influence impériale ou néo-impériale.
Réponse collective. Alors, Pierre Grosser l'évoquait, la relation avec la Russie. Là aussi, l'actualité en janvier nous a apporté le résultat de négociations entre le Japon et la Russie à propos des îles Kouriles. Le conflit est vieux de 74 ans entre la Russie qui les occupe et le Japon. Bon, il y a ce problème de négociation sur les îles Kouriles, mais apparemment les choses se sont soldées par un échec puisque la Russie refuse aujourd'hui de rendre ces îles au Japon. Qu'est-ce que craint la Russie par rapport à cette reddition, si on peut dire, des îles Kouriles au Japon, Valérie Niquet?
Alors, en ce qui concerne la question des îles Kouriles, elle n'est, semble-t-il, pas prête d'être réglée, même si la discussion porte plus si le Japon l'acceptait, si le Japon l'avait accepté dans les années 50 sur la restitution des deux îles les plus proches du territoire japonais, qui avait fait l'objet d'une négociation à l'époque de Khrouchtchev. Et derrière ça, il y a la question du traité de paix qui n'existe toujours pas entre la Russie et le Japon. Et le Japon, là aussi, c'est très très ambigu. Il y a des vrais défis pour la politique étrangère du Japon et pour un pays qui a longtemps été habitué à ne pas en avoir ou en tout cas à ne pas en exprimer, ce qui pose des problèmes d'ajustement. Il y a à la fois la volonté très forte de ne pas créer un front commun entre la Russie et la Chine, et donc à la fois le Japon applique d'une manière tout à fait ferme les sanctions qui ont été votées contre la Russie, mais en même temps considère que bon, ça, pour sa situation géographique en tout cas, ça n'est pas la meilleure politique de monter absolument la Russie contre le reste du monde, et que ça n'est certainement pas la première menace auquel le Japon fait face aujourd'hui. C'est une grosse différence avec les États-Unis et surtout avec beaucoup d'États européens. Mais pour Tokyo, la Russie reste un partenaire potentiel important. Mais là aussi, l'ambiguïté, c'est que économiquement, évidemment, la Russie ne pourra jamais jouer le rôle de la Chine et a énormément de mal à attirer les investisseurs pour un environnement économique qui reste très très aléatoire, particulièrement dans l'extrême-orient russe. Donc Abe, lui, c'est un peu comme avec Trump, continue à avoir une politique de contact régulier avec Poutine. Les choses avancent, on peut pas parler d'échec absolu, les négociations ne cessent pas. Chacun a ses obligations, et notamment Poutine avec ses pressions intérieures, l'image qu'il veut renvoyer de leader ferme qui n'abandonne pas le territoire russe. On sent bien que des deux côtés, il y a la volonté de maintenir des liens et éventuellement de coopérer, mais il est certain que pour le moment, on n'est pas du tout arrivé à une situation de solution parfaite de la question et de la signature d'un traité de paix.
Oui, alors ces négociations, de toute façon, Pierre Grosser, n'empêchent pas les deux pays d'avoir des relations économiques, hein, c'est ce que Valérie Niquet disait à l'instant. Est-ce que Moscou craint, comme c'est à avancer souvent, un déploiement des troupes américaines sur ces fameuses îles Kouril pour ne pas vouloir les restituer au Japon ?
Non, c'est vraiment un trophée de guerre de 1945. Il faut bien voir que pour les Japonais, les Soviétiques ont violé le traité de neutralité d'avril 1941 en entrant en guerre, en gros, entre le lancement des deux bombes atomiques américaines.
Hiroshima et Nagasaki.
Voilà. Et pour les Soviétiques, ils sont rentrés en guerre, effectivement. Ils ont remporté une victoire absolument extraordinaire sur des troupes japonaises qui n'étaient pas les meilleures en Mandchourie. Mais enfin, c'est resté pratiquement l'opération militaire la plus glorieuse de l'histoire soviétique. Et les îles Kouril, ça avait été négocié à Yalta avec les Américains. Donc, ils ont l'impression que le prix de leur entrée en guerre, ça a été les îles Kouril. Et donc, quand on sait ce que représente la grande guerre patriotique pour les Soviétiques, en termes de symbolique, lâcher cela, c'est extrêmement compliqué. Ça a failli avoir lieu tout début des années 90, mais comme on avait quand même beaucoup cédé du côté russe sur l'Allemagne, c'était compliqué de céder aussi sur le Japon. Donc, je vois pas tellement comment ils pourraient céder. Après, la logique stratégique, c'est au départ de protéger la mer d'Okhotsk, qui est une mer quasi fermée, mais avec les îles Kouril qui sont juste à la lisière. Les deux îles qui seraient restituées sont toutes petites. D'imaginer la présence de troupes américaines, de toute façon elles sont présentes à Okinawa, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes au Japon même. Ça changerait pas stratégiquement la donne. Mais depuis les années 80, il y a une stratégie américaine de pénétrer dans la mer d'Okhotsk et de coincer en gros les sous-marins nucléaires soviétiques, à l'époque, russes aujourd'hui. Donc il reste un certain nombre de fantasmes du côté russe sur la possibilité des Américains de déployer encore une fois leur marine de façon offensive dans la région.
Alors Nicolas Rogou, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose. On passe à la Corée du Nord. Les pourparlers entre le leader nord-coréen et Donald Trump, ils sont dans les tuyaux. Pourquoi le Japon craint-il tant cette main tendue par les Américains aux Nord-Coréens?
Je ne sais pas s'ils craignent cette main tendue. Je pense qu'ils sont contents qu'il y ait une négociation. Encore faut-il qu'on les rassure sur tous les paramètres d'une bonne négociation. Et aujourd'hui, nous constatons que nous avons peu d'informations, tout simplement. Et c'est ça qui est problématique pour Tokyo. Il ne s'est pas passé grand-chose entre le sommet de Singapour et aujourd'hui. Il n'y a pas eu de progrès sur à notre connaissance, sur les paramètres même d'un processus de dénucléarisation. Donc, le prochain sommet, à la fin du mois, va peut-être mettre en place ces paramètres qui sont importants, mais naturellement, beaucoup à Tokyo craignent qu'il y ait un mauvais accord, un accord partiel, un accord qui laisserait le Japon et la Corée du Sud face à une certaine reconnaissance d'un certain capital balistique et nucléaire de la Corée du Nord. Ce que craint particulièrement le Japon, c'est ça. Un accord partiel, un accord qui n'offrirait pas toutes les garanties de sécurité et qui viendrait donc, par voie de conséquence, affaiblir l'alliance nippo-américaine, la crédibilité des garanties de sécurité américaine. C'est le cœur du débat aujourd'hui. Mais nous verrons les déclarations récentes du négociateur américain laisse espérer qu'il y aura des résultats concrets, des paramètres sérieux, et l'administration américaine tient un discours volontariste, mais la présidence américaine nous a, dans le passé, surpris, et c'est la crainte à Tokyo, c'est d'être surpris.
Valérie Niquet, la question de la Corée du Nord, c'est un sujet de divergence entre la Corée du Sud et le Japon.
Non, c'est pas uniquement la question de la Corée du Nord, effectivement, le Japon s'inquiéterait, par exemple, de voir la Corée du Sud, ce qui semble être un peu le cas, mais je pense pas que ça aille jusque-là, qu'il y ait un vrai rapprochement, et pourquoi pas une sorte de réunification entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et le Japon se méfie évidemment énormément de l'actuel président sud-coréen qui n'a pas démontré une sympathie particulière pour l'archipel, et ça fait partie en fait aussi de sa spécificité, de son positionnement politique en Corée du Sud. Les relations avec la Corée du Sud sont essentielles, c'est le deuxième grand partenaire des États-Unis. Il y a une relation triangulaire de sécurité très importante entre la Corée du Sud, un intérêt stratégique commun entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon. Et la Corée du Sud est en ce moment dans une phase à nouveau, il y a eu des hauts et des bas, de très grandes tensions avec le Japon sur toute une série de sujets liés à l'histoire. Et là aussi, un peu comme en Chine, même si on ne peut pas nier évidemment tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant, pendant la période de la colonisation de la Corée par le Japon, il y a très manifestement, un peu comme dans le cas de l'Algérie avec la France, la volonté en Corée du Sud aujourd'hui d'utiliser ces questions historiques pour des raisons, encore une fois, qui sont très liées à la politique et au jeu politique intérieure très complexe en Corée du Sud même. À ceci répond évidemment au Japon un agacement croissant à l'égard de Séoul, ce qui ne favorise pas une amélioration des relations entre les deux pays. Et encore une fois, c'est un problème majeur dans la mesure où les deux sont engagés dans des intérêts stratégiques communs, à la fois contre la Corée du Nord, pour que l'accord, si un jour il se fait, se fasse dans de bonnes conditions, et que notamment la Corée du Sud ne cède pas trop vite sur la levée des sanctions, ce qui affaiblirait considérablement les capacités de pression que l'on peut avoir sur le régime nord-coréen, qui nous a quand même habitués à tout accepter pour obtenir une levée des sanctions et ensuite reprendre sa stratégie de développement de ses capacités. Donc les enjeux sont doubles, stratégiques, politico-historiques, notamment de la part de la Corée du Sud, et c'est vrai que ça n'est pas favorable du tout à un paysage stratégique qui soit efficace face aux menaces en Asie aujourd'hui.
Pierre Grosser, sur la Corée, et en guise de conclusion.
Effectivement, la Corée du Sud a aussi tendance à encore plus jouer la carte anti-japonaise, que c'est une carte nord-coréenne traditionnelle. Donc quand on va discuter avec les Nord-Coréens, on montre qu'on n'est pas très gentil avec le Japon en ce moment. Je crois qu'il faut aussi quand même rappeler que du côté japonais, la question nord-coréenne n'est pas toujours très bien gérée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce d'obsession depuis longtemps pour les fameux abductis, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement le nombre de Japonais qui ont été enlevés par les Nord-Coréens, qui est un abcès de fixation presque plus que le nucléaire dans les discussions, quand il y avait des discussions assises sur le nucléaire nord-coréen. C'est un élément qui est absolument fondamental pour Shinzo Abe, qui a fait une partie de sa carrière politique sur cette question-là. Du coup, le Japon est quand même très marginalisé aujourd'hui sur les négociations sur la Corée du Nord. Et ça, je pense qu'à terme, ça risque d'être un problème. Et je pense que les Américains ne parlent pas beaucoup avec le Japon sur la Corée du Nord, et que ça, c'est un problème.
Valérie Niquet, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Je pense que le Japon n'est pas si marginalisé que ça, et notamment auprès de l'ensemble de ses partenaires asiatiques. Si on met de côté la Corée du Sud et la Chine, au contraire, on a vu un retour des attentes de l'ensemble de l'Asie à l'égard d'un rôle beaucoup plus important du Japon aujourd'hui, y compris sur les questions de sécurité. Et ça, c'est plutôt positif pour l'image du Japon dans la région.
Nicolas Rebaud.
Et le Japon a réussi à faire que l'Australie, la France, le Royaume-Uni, l'Inde soient de plus en plus intégrés dans les questions de politique et de sécurité dans la région. Et c'est quand même largement une victoire d'Abe.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Nicolas Rebaud, conseiller pour l'Indo-Pacifique de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie. Pierre Grosser, historien spécialiste de l'histoire des relations internationales et professeur à Sciences Po, auteur de L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle aux éditions Odile Jacob. Et Valérie Niquet, maître de recherche responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. À samedi prochain.